Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'anarchie, le rendez-vous qui vous transporte dans l'univers captivant de l'architecture où nous explorons le rôle essentiel qui joue l'image. Je suis Xavier Lepenec, fondateur d'XLP Studio, une agence spécialisée dans la réalisation de perspectives pour les architectes et les promoteurs. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'architectes qui partagent leur histoire, leur inspiration et nous racontent comment ils utilisent la magie d'image. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en le taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place aux artistes. Chers auditeurs, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Emmanuel Andréani. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Xavier.
Bienvenue dans la tête d'anarchie. Emmanuel, vous êtes architecte, vous dirigez l'agence d'architecture qui s'appelle Emmanuel Andréani Architecte et qui existe depuis 1998, c'est bien ça?
C'est bien ça.
Bon bah, bienvenue dans ce podcast. On va démarrer en parlant de votre parcours. Pouvez-vous nous décrire votre parcours et ce qui vous a donné envie de devenir architecte?
Bon, c'est une question qui est évidemment très très difficile parce qu'on devient architecte pour plein de raisons. Alors, je vais pas tellement faire rêver. Sachez que je suis une matheuse. Une matheuse qui est une formation à la base maths-sup, maths-p, concours aux grandes écoles d'ingénieurs. Et avec toujours cette envie quand même, ce petit décalage d'être dans la créativité, de vouloir inventer des choses. Et un jour, j'ai découvert que sur le planning des concours aux grandes écoles, il y avait une école qui s'appelait l'ENSAIS Architecture. Et là, je me suis dit, ça, c'est pour moi. Et donc, j'ai réussi ce concours et je suis rentrée donc à l'ENSAIS, qui est maintenant l'INSA de Strasbourg, qui forme des architectes dans une école d'ingénieurs. Ah oui. Une école, d'ailleurs, où j'enseigne aujourd'hui. Et donc, ça donne un éclairage particulier sur mon travail parce que finalement, étant quelqu'un d'extrêmement structuré, j'ai pris à bras le corps cette dimension de l'espace, de ce qui nous entoure, avec une espèce de virginité, vous voyez. C'est une matière qui s'est développée avec mes études et la découverte de l'architecture, elle s'est faite sur le tard. Voilà un petit peu mon parcours. Alors bon, j'ai fait donc 4 ans d'études à l'ENSAIS. Je suis sortie major de promotion avec un diplôme qui a eu une note excellente maximale de 19,5 et qui m'a permis d'acquérir et d'avoir le meilleur diplôme de France de l'Académie d'architecture, le premier prix Robert Camelot de l'Académie d'architecture, le premier prix de la Mutuelle des architectes français, donc dès la sortie, ce qui m'a permis également d'avoir accès à de grandes agences en sortie d'école. Donc j'ai fait le choix d'aller travailler avec Dominique Perrault. Dominique Perrault qui était à l'époque sur la Bibliothèque de France. Et donc j'ai travaillé quelques années à côté de Dominique Perrault sur les aménagements intérieurs de la Bibliothèque de France et surtout sur des gros concours internationaux. On a développé à cette époque, alors ça va faire rire les plus jeunes auditeurs, mais on a développé à cette époque des conceptions de ville nature, où on mettait beaucoup de paysages dans nos projets. Donc là, je vous parle des années 1994-1995. Il m'a semblé, surtout quand on travaillait sur des gros projets urbains, je pense au projet de Bordeaux par exemple, qui manquait cette dimension du paysage dans ma formation. Et donc, j'ai entrepris un DEA qui s'appelle Jardin, Paysage, Territoire, à l'École des hautes études en sciences sociales et à l'École d'architecture de Paris-Lavillette, sur un an, pour me former à ces notions de paysage.
Oui, c'est intéressant.
Voilà. À l'issue de ce DEA, j'ai pris la direction des projets urbains à l'agence Paul Chemetoff, où j'ai travaillé sur des projets, par exemple la Cité des 4000 à la Courneuve, de renouvellement urbain et des gros projets de territoire. Et puis là, au bout de 2 ans, je me suis sentie d'attaque de monter mon agence. Je l'ai fait avec un associé qui est resté quelques années à mes côtés, à Paris. Et depuis 10 ans maintenant, mon agence s'est développée à Lyon. Voilà, et donc ça va vous donner des clés aussi sur la manière dont je travaille. La question du territoire, la question du paysage sont des vraies questions ici à l'agence. Et le contexte est toujours une priorité sur le projet.
Ah bah oui, on va développer tout ça. Merci. Hein. Quel beau parcours. Et c'est vrai que moi, c'est pour ça que j'aime bien l'évoquer dans ce podcast, parce que au cours de ces études et tout le monde évolue. Il y en a qui l'ont l'envie d'être architecte depuis avec leurs parents ou autres. Et il y en a avec les études. On découvre un concours et puis s'emmène à une super carrière. Merci en tout cas pour avoir expliqué tout ce parcours et la création de votre agence. Justement, quand on parlait de la création de votre agence, comment vous avez vécu la création de votre agence?
Alors un jour, je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai fait un peu le tour de la question du paysage, du grand territoire, des projets urbains, des gros projets à l'international. J'ai envie de voler par mes propres ailes, on va le dire comme ça. Et donc, j'ai fait le choix de m'installer. Alors c'est très étonnant parce que on fait ce choix-là un peu naïvement, en se disant, ben voilà, quand on est... dans une agence, les projets tombent. Donc voilà, on a des concours qui arrivent, puis ça doit être facile de s'installer, puis d'avoir comme ça, de répondre à des appels d'offres, et puis de faire des concours, et puis de les gagner, et puis vogue la galère, quoi.
Tout va continuer normalement.
En réalité, du jour au lendemain, on se retrouve très seul. On se retrouve très seul parce que en plus, quand on vient des grandes agences où on a tout un staff autour de nous. Des bureaux d'études qui sont parfois même intégrés dans la structure, des gens d'expérience autour de nous, des gens qui produisent de l'image, voilà, toute une équipe. Et bien, quand on se retrouve tout seul, et bien, on apprend tout à zéro. On apprend tout à zéro, aller chercher un appel d'offres dans le journal officiel, créer sa base de données, et puis, moi, je me souviens, le premier projet que j'ai eu, c'était un projet d'extension de maison pour un couple qui venait d'avoir des jumeaux. Et ils se retrouvaient du jour au lendemain à devoir étendre cette maison-là dans un petit pavillon en banlieue de parisienne. Et puis, donc, je dessinais, c'était pas le souci. C'est quand on a commencé à attaquer le chantier que je me suis retrouvée face aux entreprises et qui m'ont parlé... là la longrine je la fais comment, et j'étais seule, il y avait personne autour de moi pour m'épauler. Et ça, cette dimension là de la solitude, elle a été pour moi une vraie épreuve. Alors après voilà, on sait se staffer derrière, mais c'est ce passage là qui est quand même qui a été difficile, d'autant que par la suite donc, pour répondre aux appels d'offres, je me suis toujours mis comme contrainte de ne jamais utiliser les références que j'avais eues dans les agences dans lesquelles j'avais travaillé. Donc, je me suis construit comme ça tout un tas de références, de toutes petites références, de particuliers. J'ai répondu à des petits appels d'offres en MAPA. Donc, où on était auditionné sur une autre méthodologie, la manière dont on allait travailler. Et petit à petit, comme ça, les références se sont construites sans jamais aller chercher des partenaires extérieurs, m'associer à d'autres architectes, être, voilà, ça, je ne l'ai jamais fait. Et du coup, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. On construit petit à petit.
Redémarrer tout à zéro, sachant que vous aviez une super... expérience dans toutes les agences, etc., et de devoir refaire surtout même le changement d'échelle, où vous deviez construire des grands projets, comme il vient dit au début, et refaire une taille de maison. Donc c'est vrai que ça change, les professionnels autour de vous changent, donc une super aventure.
Donc j'ai appris à être architecte après avoir dirigé ou contribué à de très gros projets. J'ai appris à être un architecte seul face à un client, et j'ai construit comme ça une nouvelle façon d'être architecte.
Ah, super, merci pour nous avoir relaté cette belle histoire, belle aventure qui est de la création d'une agence. Comment décrivez-vous votre philosophie en matière d'architecture?
Alors, je dirais que l'architecture, pour moi, elle est très 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 liée au contexte dans lequel elle s'inscrit. Alors, contexte au sens large, le contexte physique. On a parlé de paysage tout à l'heure, on a parlé de territoire. Le contexte social, bien sûr, la commande, et le contexte, on va dire, économique, qui est d'ailleurs aujourd'hui une de nos préoccupations. Et donc, pour moi, l'architecture, c'est vraiment une matière qui se met en dialogue et qui se met en échange et en lien avec ce contexte au sens large. Je dirais que pour moi, le projet architectural, il interroge le réel dans sa responsabilité culturelle, dans sa responsabilité sociétale et environnementale. Par exemple, on me demande souvent « Comment avez-vous eu l'idée de départ pour ce projet ?»« Comment est-ce que vous avez imaginé ?» Ça, c'est une question qui est récurrente à tous les architectes. « Comment est-ce que vous partez d'une page blanche ?» Ça, c'est toujours intéressant parce que c'est vrai que on se la pose même pas nous. Donc, revenir là-dessus sur l'idée de la page blanche. Et puis, la deuxième question qui vient tout le temps, c'est comment intégrez-vous toutes les données, les contraintes, les règles, etc. Eh bien, moi, je dirais que le processus de conception, il est extrêmement complexe. Et puis que la dimension spatiale qu'on met dans un équipement ou dans un projet de logement, c'est jamais l'addition de contraintes, en fait. C'est pas l'addition des règlements, du programme. C'est bien plus complexe que ça et que le projet, en fait, il est à la fois déductif et inductif pour arriver à proposer, pour finir ce tout-là, cette espèce de matière que devient l'architecture. Et que l'architecte, en fait, il propose une forme de récit. Et que ce récit, en fait, il est le fruit d'une histoire et souvent d'histoires qui sont croisées, à la fois de savoir théorique, de techniques qu'on accumule avec l'expérience et de culture. Et que même si chaque architecte a sa manière de conduire le projet, en fait, on le voit, il est vraiment la synthèse de ces dialogues au sens large. Alors, ces dialogues, on l'a dit, hein, ces dialogues avec le territoire, avec les hommes et femmes qui façonnent le projet, le programme. Et donc, cette démarche-là, elle est pour moi l'essence même de l'architecture. Je dirais qu'on tire un peu des fils comme ça, des fils du territoire, de la géographie. On tire des fils avec le passé aussi. Et puis, on construit l'avenir, les espaces. On construit les espaces pour l'avenir. Voilà, donc cette question de la relation, pour moi, elle est au cœur de la pensée architecturale, en tous les cas, dans la manière dont on traite le projet dans l'agence. J'aime souvent dire que le projet d'architecture se situe à des frontières fertiles avec tous les autres champs disciplinaires ou tous les autres champs de l'architecture.
J'aime beaucoup cette formulation. Merci, Emmanuel. Justement, quand on parlait de projet, est-ce qu'il y a un projet que vous avez réalisé qui vous tient particulièrement à cœur ?
Écoutez, il y a des projets qui jalonnent des parcours. Ça, c'est inévitable. Il y a à l'agence, nous sommes 10 architectes. Donc, 10 architectes, c'est autant de projets qui se construisent tous les jours. Mais il y a quelques projets qui jalonnent un parcours. Le premier projet qui a jalonné mon parcours, c'est l'école de musique de Tassin-l'Anne-Milune, donc près de Lyon, qui a été nominée au prix de la première œuvre. Donc ça, c'est un projet qui me semble être un projet de départ, on va dire comme ça. Même si c'est le premier, il marque aussi une façon de construire l'architecture dans notre agence. Le deuxième projet que je retiendrai, c'est l'église de Vaux-en-Velin. Alors l'église de Vaux-en-Velin, c'est un projet que je cite ici parce que faire une église pour un architecte, c'est éminemment important. Construire une église, c'est pas donné tous les jours. Ça convoque quand même des dimensions qui nous qui nous amène à traiter la question de la spiritualité, du sacré. Et en plus, c'est un sujet qui que j'ai eu à traiter en arrivant à Lyon. J'ai déménagé mon agence à Lyon en 2008-2010. Et j'ai donné une conférence à Lyon sur l'école de musique de Tassin dont je viens de parler.
Oui.
Et à la fin de cette conférence, j'avais invité le maître d'ouvrage. J'avais fait une conférence en invitant mon maître d'ouvrage, en me disant bah, « Tiens, c'est bien, parce que ça correspondait aussi à la manière dont j'avais envie de transmettre ce projet. » Ce dialogue maître d'ouvrage architecte, il m'a conduit à la fin de la conférence à rencontrer un AMO qui est venu me voir en me disant « Écoutez, Madame Andréani, c'est très intéressant parce que vous avez discuté, vous avez eu ce dialogue là avec votre maître d'ouvrage. Et moi, je suis AMO sur un projet très atypique qui est la nouvelle église de Vaux-en-Velin. Ça fait 50 ans dans le diocèse. Donc le diocèse, c'est la grande région sud-est que nous n'avons pas construit d'église. Nous lançons ce concours, nous avons invité un tas d'architectes de renom et finalement, je me rends compte qu'on n'a pas invité de jeunes agences d'architecture à concourir. Présentez-vous, il faut me montrer une référence et puis une lettre de motivation. Donc, je me suis présentée. J'ai été retenue face à des agences prestigieuses pour ce concours.
Super.
Cette histoire, elle est belle parce que nous avons gagné ce concours de la nouvelle église de Vaux-en-Velin. Et construire une église, comme je le disais tout à l'heure, pour un architecte, c'est fort. C'est fort de sens. Parce que notre formation, elle est faite de ces équipements comme les grandes églises, de ces lieux comme ça, un peu fort de sens. Du coup, je suis retournée à Firminy pour voir l'église de Le Corbusier. Vous voyez, il y a quand même, c'est l'histoire de l'architecture qu'on traîne derrière nous. Et concevoir une église contemporaine dans un contexte qui est celui de Vaux-en-Velin, ça a été une belle expérience. Alors, bien sûr, le dernier projet et le plus emblématique pour moi, c'est la Cité des Climats et des Vins de Bourgogne à Beaune. C'est le projet qui a marqué ma carrière. Alors, qui a marqué ma carrière parce que c'est un projet qui est en vue, qui est un projet public, culturel, et c'est aussi une très très belle histoire. Et moi, j'aime les belles histoires. Et donc là, on est vraiment face à un projet d'aujourd'hui. Hein, on vient de le livrer, on l'a livré cet été. Il y a déjà 50 000 visiteurs qui ont parcouru ce bâtiment.
Génial.
C'est un projet sur lequel nous venons d'avoir le 10e prix international. Alors donc c'est pour ça que je peux dire que c'est un projet qui me porte là, même s'il est livré depuis quelques mois, il me porte encore. C'est toujours, on a tellement peu de retours sous notre travail, ne serait-ce que par les usagers, qu'à un moment donné, quand on a des prix comme ça, et ben ça fait du bien. Alors ce projet, il est complètement fou parce que si vous voulez, c'est un concours c'est un MPGP. Les MPGP, donc c'est compliqué pour les architectes parce que c'est des équipes qui sont conduites par des entreprises. Mmh. Et ce MPGP là, il était déjà dans les tuyaux depuis longtemps. Et le maire de Beaune lance l'appel d'offres et répond à cet appel d'offres. Bien sûr, tous les majors que vous pouvez imaginer sur la dimension de ce projet. Et puis moi, j'ai mon compagnon qui était à l'époque qui dirigeait une entreprise locale qui m'appelle et qui me dit à la Cité des Climats et des Vins de Bourgogne, Emmanuel, ça te dit on se présente. Donc David Guillaume m'appelle pour me dire ça Bon, je lui dis, bien évidemment, on y va.
C'est
sûr. Sachant que ils avaient très peu de références, même pour ainsi dire, pas de références en bâtiment, que c'était pas forcément ciblé entreprise de région, donc c'était vraiment un challenge. Et puis on a monté une équipe de gens, de copains, on va dire. On a fait cette équipe au dernier moment avec Baptiste Serf, qui est le bureau d'études avec lequel je travaille très régulièrement, et une scénographe qui s'occupe plus, pas tellement du vin, mais plutôt de la Shoah. Donc, vous voyez, une équipe comme ça agrégée. Et on est parti un petit peu comme ça en se disant, on va y arriver parce qu'on est on n'est pas attendu. Et puis, on a été retenu face à des équipes prestigieuses, encore une fois. C'était des architectes internationaux qui étaient attendus, pas du tout Emmanuel Andréani, vous voyez, c'était pas du tout le...
Génial. Okay.
Et puis on a fait, et là c'est aussi la force comme ça des histoires qui sont montées avec des gens de confiance. David Guillaume dit, écoute Emmanuel, on a 1% de chance de gagner ce concours. Je dis oui, je sais bien qu'on a 1% de chance. Déjà, d'être retenu, c'était formidable. Donc, te pose pas la question du prix. Vas-y. Ce qu'il faut, c'est que tu sortes le projet de tes tripes et que quand ils ouvrent les plaies, qu'ils fassent waouh. Donc ça, c'était le cahier des charges de l'entreprise. J'avais pas beaucoup d'entreprises dans ma carrière qui m'ont dit ça. Hein. Donc j'ai sorti ce projet de mes tripes en marchant dans le territoire bourguignon que je connaissais pas forcément très bien, hein. Les vignes, on n'avait jamais construit en Bourgogne. Donc j'ai arpenté les vignes, j'ai discuté avec des vignerons, j'ai vraiment pris cette essence-là de ce que c'est que la Bourgogne pour construire ce projet. À la fois très ancré dans son site. Le programme était pas si grand que ça, donc j'ai imaginé un projet qui vient chercher son territoire, qui construit avec lui les alentours, qui va chercher le jardin, qui va construire un parc autour sur lequel on a planté de la vigne, qui vient bien s'ancrer avec de la pierre de Comblanchien, et puis un projet qui va chercher le ciel. Avec une rampe qui s'enroule autour du bâtiment, une rampe que l'on a rajoutée au programme, qui est une promenade en fait, une promenade dans le territoire, et qui va chercher le ciel, et qui fait l'allégorie à la vrille de la vigne. La vrille de la vigne, c'est ce petit bout de végétal.
Ah oui, qui s'agrippe.
Qui s'entoure autour du fil de palissage et qui permet à la vigne de monter, en fait. Sinon, la vigne, ça rampe, hein, ça reste au sol. Ça permet à la vigne de grimper et au raisin de mûrir et donc au vin d'exister. Et donc, c'est là-dessus, sur cette allégorie-là, que j'ai construit ce projet. Et sur cet effet waouh, alors l'effet waouh, on en parlera tout à l'heure avec la question de l'image, bien sûr. Et voilà comment s'est construit ce projet. C'est un projet qui s'est construit vraiment main dans la main, une vraie aventure humaine, avec notre équipe et avec le maître d'ouvrage qui nous a suivis vraiment jusqu'au bout. Pour vous dire à quel point, c'est qu'on a développé ce projet avec des matériaux de construction classiques, bien que les ambitions environnementales étaient très, très, très poussées. Et puis, en pro, on a décidé de changer de technique de construction pour faire tout le noyau central, toutes les façades, en ossature bois et en béton de chambre, donc chambre chaud et terre à l'intérieur. Et là, on était déjà en pro. Et le maître d'ouvrage nous a suivis pour qu'on construise ce projet très, très ambitieux en termes de matériaux biosourcés. Et on est allé au bout avec tout ce que ça implique comme contrainte, et comme on a fait des ATEX, on a eu tout ce qu'on peut connaître comme comme validation de ces nouveaux matériaux. Et ça, voilà, ça c'est un travail qui s'est fait main dans la main avec notre maître d'ouvrage et avec l'ensemble des entreprises avec lesquelles on a travaillé.
Merci Emmanuel de nous avoir raconté cette belle histoire. Je pense que tous les auditeurs ont regardé attentivement encore plus les images de ce projet, qui est très beau et ont l'impression d'y être. Justement, tu parlais d'images. Est-ce que l'image, la perspective est importante pour votre agence?
Alors, la question de la perspective, elle est importante. Comme ben alors, pour gagner un concours, je viens d'en parler sur la cité des climats et des vins de Bourgogne. À un moment donné, l'effet « waouh », il se fait évidemment par un concept qui marque, mais par une image qui marque. Et là, je veux dire, la question de l'image, la perspective de concours, elle sert évidemment à créer cet effet-là. On adhère ou on n'adhère pas. D'ailleurs, avec son effet pervers, parce que on peut avoir un projet extrêmement intéressant qu'on est capable, nous, en jury, de lire. Quand je fais partie du jury, je vois souvent des projets qui sont très, 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 très bons, avec des, qu'on voit en coupe, en plan, mais qui pêchent parfois par une image qui est peut-être moins clinquante, moins, je sais pas, moins dans l'air du temps qu'une autre. Et on le voit, le jury sont constitués de telle sorte que bah, les élus sont pas forcément formés à lire les plans et les coupes. Et du coup, ils vont aller vers l'image qui leur paraît être la plus en adéquation avec ce qu'ils aiment ou avec l'air du temps. Et c'est vrai que ça peut avoir cet effet pervers qu'il faut quand même noter. Alors, on peut pas parler d'architecture sans parler de l'image, parce que de toute façon, l'architecture, avant d'être construite, elle ne se transmet que par des images.
Oui.
Un plan, c'est une image, une coupe, c'est une image, une façade, c'est une image. Et dans un monde comme celui dans lequel on est aujourd'hui, qui est un monde d'images,
oui.
Il faut aller chercher les images qui interpellent l'homme de tous les jours, la femme de tous les jours, qui est l'élu, le client, qui a l'habitude de scroller sur Insta. Donc voilà. Donc la question de l'image, elle a extrêmement évolué les dernières années. Et moi, je dirais que ça veut dire qu'il faut se réinventer aussi tous les jours dans la production d'images. Que là où il y a quelque temps le plan, la coupe, la façade pouvait suffire, aujourd'hui, c'est même plus la peine de l'imaginer. Derrière la question d'image, il y a aussi la question de la pédagogie. Quand on livre une image en concours, de toute façon, on peut pas faire de la pédagogie avec, parce qu'on n'a souvent même pas le droit de prendre la parole, il n'y a pas d'oral. Donc, c'est l'image qui parle pour nous. Et donc, ça veut dire qu'il faut construire l'image avec ce que l'on veut faire passer
comme émotion.
Du projet. C'est pas juste une photo, hein. C'est plus qu'une photo. C'est une photo et un récit. Comme je le disais tout à l'heure, pour nous, le récit est hyper important. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi construire l'image en fonction de ça. Et donc, c'est une question qui, m'interpelle tous les jours. Comment on va rendre ce projet? Quel type d'image on produit? Est-ce que on va avoir recours aux croquis pour expliquer un espace? Est-ce que on va produire une image hyper réaliste qu'on sous-traitera, parce que à l'agence on ne fait pas de perspective hyper réaliste. Est-ce qu'on va avoir recours au film? Alors le film, oui, on le traite en interne. Pour certains concours, c'est plus facile de parler du parcours architectural en promenant
une caméra.
Voilà le spectateur dans des séquences, plutôt que d'avoir des croquis. Donc tout ça, c'est des questions moi qui m'interpellent beaucoup, parce que elle renvoie à autre chose. Elle renvoie à la pédagogie et à l'enseignement. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'enseigne le projet urbain et le projet d'architecture depuis presque 20 ans maintenant, depuis presque le début en fait. Et pour moi, l'enseignement c'est important et je me réinterroge chaque jour en enseignant, parce que enseigner c'est aussi être mis en doute, parce que les étudiants ils questionnent forcément notre pratique, ils questionnent notre manière de voir le monde, et la pédagogie à travers l'image, elle est pour moi liée au projet d'architecture. Donc c'est cette question là que vous posez dans l'intégralité de vos podcasts, elle me paraît être une question essentielle de notre pratique de l'architecture.
Merci Emmanuel en tout cas pour cette définition de l'image. J'ai rien à rajouter, j'ai jamais une aussi belle définition de l'importance de l'image pour l'architecture. Maintenant, on revient un peu plus à l'architecture. Y a-t-il un bâtiment ou un architecte en particulier qui vous a inspiré?
Moi, ce qui m'inspire, c'est tout le monde, enfin tout ce qui m'entoure en fait. Ce qui m'inspire, c'est tout ce qui m'entoure. Je dirais que c'est tous les voyages que je fais régulièrement, les voyages d'études. À travers le monde, j'aime beaucoup voyager. Et en fait, je me nourris de tous les architectes. Je me nourris de tous les architectes. Et d'ailleurs, dans le processus, si vous regardez le processus de conception,
oui.
On n'invente rien en fait. Je reprendrai cette formule de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Eh bien, moi, je dirais que c'est un peu ça. C'est la manière dont, en tous les cas, moi, je travaille. J'accumule comme ça des images. Pour le coup, c'est souvent lié à l'image. J'accumule des images et en même temps, je dessine. Donc, je prends. Alors, quand on dessine, on prend autre chose. On prend une proportion, un détail. On va chercher un dispositif architectural. Et puis il y a les comme vous le dites, il y a les architectes qui nous inspirent. Hein.
Ouais.
Voilà, il y a ces trois dimensions, c'est le voyage, il y a le dessin qu'on intègre, qu'on incorpore quand on dessine en fait, on prend une architecture et puis on l'incorpore parce que ça passe des yeux au cerveau à la main. Moi je ne suis pas une architecte qui dessine sur ordinateur, je dessine à la main. Donc déjà, vous voyez, ce mouvement-là, il est important. Et puis, il y a les grandes figures qui ont marqué ou qui inspirent, comme vous le dites. Je trouve que cette question, elle est intéressante. Parce que vous voyez, je ne m'étais jamais posé la question. Alors, je gagne du temps en essayant de me dire qui est-ce qui m'a vraiment inspiré, quel architecte ou quel bâtiment. Je peux vous dire des moments qui m'ont marqué émotionnellement. Le couvent de la Tourette, de Le Corbusier, le cabanon de Le Corbusier à Roquebrune-Cap-Martin. Cet archive, bon, Le Corbusier évidemment, je pense à lui. Parce que justement, dans cet écart entre cette capacité à théoriser sa production, à proposer des bâtiments à l'époque qui étaient quand même extrêmement révolutionnaires, d'une qualité de vie, de prise en charge du territoire. Et puis ce petit cabanon là à Roquebrune où il aimait être, cet écart là il est pour moi intéressant. Après je suis extrêmement moi influencée par le travail de Jean Nouvel.
Ouais.
Parce que ce travail du récit, Jean Nouvel pour moi c'est le récit. Jean Nouvel à chaque fois il me raconte une nouvelle histoire avec ses bâtiments. Et moi, j'aime ça. J'aime me faire emmener dans une histoire. Et après, si on parle de des dispositifs architecturaux, j'aime beaucoup Stephen Hall. Stephen Hall, pour moi, est un architecte qui m'inspire.
Merci pour la description. Donc, les auditeurs comme ça, ils vont découvrir encore quelques architectes, mais s'il y en a des qui étaient déjà bien connus, et puis c'est de savoir que l'inspiration, c'est aussi avec les voyages, les images. Souvent, ce que disent aussi les architectes, c'est que même quand on voit des bâtiments en images, c'est important d'aller les voir parce que il y a une autre émotion quand on voit le bâtiment en vrai. Merci en tout cas de nous avoir donné vos inspirations. Quelles sont les tendances actuelles en architecture qui vous passionnent le plus?
Alors, la question de la passion, parce que votre question, elle est ambivalente parce que vous parlez de passion. Alors déjà, pour moi, je vais le dire là, comme beaucoup d'architectes, c'est une passion, hein, mon métier. Oui. Enfin, j'espère qu'on l'a senti.
Oui.
Donc tout va, mon métier me passionne. Ça, c'est clair, mon métier me passionne. Et pourquoi ça me passionne? Parce que c'est un métier qui demande de toujours se réinventer.
Oui, sûr.
À l'agence, nous n'avons jamais fait deux fois, la même chose. Et on invente à chaque fois. Alors, on invente soit, voilà, parce que effectivement, c'est toujours un nouveau client, des nouveaux contextes, un nouveau concours. Bon, d'accord. Mais nous, on invente aussi parce qu'on va chercher des matériaux qui sont pas forcément utilisés. On les détourne. On est très dans l'expérimentation. Des fois, c'est pas facile hein, d'être dans l'expérimentation. J'en ai parlé tout à l'heure pour la cité des climats et des vins de Bourgogne. Expérimenter des matériaux biosourcés sur des très grandes hauteurs, ça n'a pas été facile. Moi, j'aime ça, j'aime inventer. Et qu'est-ce qui me passionne aujourd'hui, pour revenir à votre question, c'est que les contraintes qui nous sont données, surtout dans la métropole de Lyon ou dans d'autres métropoles, les contraintes de biosourcer, les contraintes d'environnement, ça, on les connaît. Eh bien, moi, ça me donne du grain à moudre. Et en plus, ça légitime quelque part mon travail de recherche. Parce que inventer quand on n'a pas ces contraintes, c'était toujours difficile. Parce que pourquoi est-ce qu'on utiliserait des matériaux biosourcés qui coûtent plus cher, qui nous amènent tellement plus de difficultés en chantier? Là, ça légitime complètement mon travail. Mmh. Donc, je suis plutôt satisfaite des nouvelles contraintes qu'on nous impose dans les concours.
J'imagine que les concours vont vous dire mais pourquoi ça, on connaît pas, ça va être plus difficile, pourquoi vous dites pas des choses qu'on a l'habitude.
Voilà. Donc là, moi je suis très contente de répondre aujourd'hui avec des bâtiments en chanvre, des bâtiments en paille, des bâtiments en terre. Voilà, je suis très 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 contente de pouvoir les proposer sans honte.
Ah non, c'est super. Et justement, quand vous parliez de l'écologie de la planète, quand on pense au futur, on pense forcément à la planète et à l'écologie. Comment intégrez-vous les préoccupations environnementales dans vos conceptions? Donc, vous l'avez expliqué, c'est ça, vous êtes à la recherche de matériaux, mais vous voyez comment l'avenir, l'architecture, les matériaux qui vont être utilisés, quelle est votre vision?
Alors moi, je me dis, c'est marrant parce que ça renvoie aussi à ce que je disais tout à l'heure sur rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Pour moi, on doit toujours se poser la question en tant qu'architecte, quand on intervient quelque part, mm-hmm. est-ce qu'on apporte quelque chose ou est-ce qu'on enlève quelque chose? J'explique. Est-ce que notre bâtiment va contribuer à l'environnement? Un plus de qualité, plus de sens, ou est-ce que il va retirer quelque chose au territoire dans lequel on s'inscrit? Donc si on prend les choses dans ce sens-là, on voit derrière ça une forme de responsabilité ultime,
ouais.
vis-à-vis de l'environnement.
Oui, pas construire.
Et là, je parle pas de développement durable et tout ça. Hein. Je parle de la responsabilité de l'architecte. Mmh. Et puis après, il y a la question de comment on construit aujourd'hui. Ça, c'est une deuxième question. Aujourd'hui, on peut plus construire comme on a construit il y a 10 ans ou 20 ans. On construit avec la responsabilité sur le carbone qu'on utilise. Donc ça, c'est une autre dimension. Et en fait, cette synthèse-là entre la responsabilité de l'environnement qui nous entoure et la responsabilité vis-à-vis de l'environnement au sens large, nous, on l'intègre très facilement depuis très longtemps parce qu'en fait, on est très aguerri aux questions de la thermie, par exemple. À l'agence, j'ai un tiers de mon équipe qui ont une double formation architecte, hein, ingénieur, thermicien. Donc, du coup, on intègre très très facilement ces questions-là, notamment dans des recherches d'architecture low-tech. On contraint un petit peu nos bureaux d'études d'ailleurs là-dessus parce que on se dit que normalement on devrait pouvoir gérer tout avec le bâtiment sans surajouter de la technicité. Et ça, voilà, c'est. Mais bon, pour revenir à cette question-là de l'environnement et de notre responsabilité. Il y a une troisième dimension, c'est celle de l'après. On construit certes, mais demain. Demain, est-ce que notre bâtiment sera capable d'évoluer? Et ça, c'est des questions qu'on intègre aussi dans la conception. Par exemple, comment est-ce que demain on peut transformer un équipement culturel qui aura reçu, par exemple, la cité des Clémats et des, pour ne citer qu'elle, et des vins de Bourgogne. Comment est-ce que demain ce bâtiment pourrait être autre chose? Quand on crée, quand on fait du bureau, est-ce qu'il est transformable en logement, par exemple? Ouais. Moi, c'est des questions qui me sont très, très, très essentielles. Cette question du demain et qui rejoint la question de l'économie circulaire et ça je prête beaucoup d'attention et notamment dans la structure de mes bâtiments, dans les portées, dans les trames, à ce que demain on puisse en faire autre chose. C'est une question qui est aussi très importante. On fait du logement à l'agence également, à peu près 30%, 30-40% de notre activité en logement. Quand on fait du logement, on ne peut pas se dédouaner de cette question du demain. Quand on fait du logement, on travaille sur comment vivent les gens aujourd'hui, bien sûr, avec l'évolution des modes de vie, c'est très important. On n'a jamais de certitude. On se réinterroge toujours sur comment est-ce qu'on vit et comment est-ce que vivra notre bâtiment demain. Comment est-ce que, par exemple, une famille qui à un instant T achète un logement, une famille, on va dire, monoparentale avec deux enfants classiques, achète, et puis demain, l'ado, il va devenir peut-être adulte, il va venir habiter avec sa copine, donc comment est-ce que le logement peut se transformer? Et puis après demain, on vieillit, et puis on a plus d'enfants. Comment est-ce qu'on peut louer une partie de son logement? Parce que quand on vieillit, on a moins de facilité à entretenir ou à payer. Voilà. Tout ça, ça, c'est important pour moi. Vous voyez, ça dépasse un peu la question, mais cette question de la durée et du temps, elle me paraît importante dans cette réflexion sur l'environnement.
Oui, c'est bien, ouais, de se dire que l'on construit, mais pour qu'un projet puisse vivre et construire longtemps, et comme ça, on ne sera pas obligé de reconstruire. Donc c'est aussi écologique de bien construire pour que ces projets vivent longtemps. Surtout aujourd'hui, on entend plus qu'il va y avoir de plus en plus de projets de réhabilitation, donc détruire le moins, donc bon, construire bien. Merci en tout cas, Emmanuel. Moi, j'ai appris plein de choses. Je pense que nos auditeurs également. C'était vraiment top. Merci pour cet échange.
autour de l'architecture et de l'image. J'espère que les auditeurs ont passé un bon moment nous écoutant. Emmanuel, merci encore une fois.
Merci Xavier, à bientôt, au revoir.
À très bientôt pour de nouvelles découvertes dans l'univers captivant de l'architecture dans la tête d'un archi. Au revoir, à bientôt. Si tu as écouté ce podcast jusqu'ici, c'est certainement que tu as apprécié cet épisode. N'hésite pas à le partager en le taguant, en t'abonnant ou à lui attribuer la note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Si tu souhaites échanger, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, hashtag dans la tête d'un architecte podcast. Un grand merci de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un archi. D'ici là, restez inspirés.